Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, participez à la consultation sur l'eau. Les habitants du bassin Loire-Bretagne sont invités à donner leur avis sur les enjeux et les défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l'eau et la stratégie de gestion des risques d'inondation du bassin. Éco-Breton vous propose une série de podcasts pour mieux connaître les enjeux liés à l'eau en Bretagne. Aujourd'hui, rencontre avec Maud Millet de l'association des petits débrouillards Grand Ouest. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le cycle domestique de l'eau ?
Alors l'eau du robinet, avant d'arriver à notre robinet, elle a fait quand même un petit voyage. Donc elle est prélevée dans le milieu naturel. Alors là, ça dépend de l'endroit, ça dépend de là où on va la prélever. Mais généralement, ça va être soit dans les eaux de surface, c'est-à-dire dans les cours d'eau. C'est la plupart du temps le cas en Bretagne, parce qu'on est plutôt riche de rivières en Bretagne. Et elles sont un petit peu plus rarement à sec, on va dire, que dans d'autres régions de France. Et dans d'autres endroits, on va aller prélever souvent l'eau, en fait, dans le sous-sol, où elle s'est infiltrée. Et c'est ce qu'on appelle les fameuses nappes phréatiques. Une fois prélevée, cette eau, une fois qu'elle est pompée, elle est très rarement suffisamment propre pour être consommée directement. Elle est donc la plupart du temps non potable. Donc elle va passer par une station de potabilisation, une station de traitement, où on va tout simplement retirer de cette eau les éléments qui pourraient porter atteinte à la santé. Ça peut être des débris, ça peut être quelques bactéries. Et donc après cette phase de traitement, elle est généralement stockée, le plus souvent dans des châteaux d'eau, en hauteur. Et puis elle est distribuée à travers des canalisations dans les différents lieux où on l'utilise, et c'est là qu'elle arrive à notre robinet. Et son voyage n'est pas terminé pour autant, puisque bien sûr, on le sait, partout où on utilise de l'eau, on va évidemment la salir. Donc on va retrouver dedans tout un tas de polluants, dont peut y avoir de la terre, il peut y avoir des détergents. Bien sûr, on va penser aussi à l'urine et aux excréments qu'on va obtenir dans l'eau au niveau des toilettes. Et tous ces polluants vont devoir être éliminés le plus possible par un traitement en station d'épuration avant qu'on rejette l'eau dans le milieu naturel.
On parle aussi de cycle naturel.
Alors juste avant, on parlait du cycle domestique de l'eau, c'est-à-dire le voyage que fait l'eau quand les êtres humains l'utilisent. Le cycle naturel de l'eau, c'est le voyage que fait l'eau, mais de façon naturelle, sans intervention de l'homme, parce que l'eau voyage énormément. Alors ce qu'on essaye de faire comprendre en fait, notamment aux plus jeunes, à travers nos animations, pour bien comprendre le cycle naturel de l'eau, c'est que la quantité d'eau sur la planète, en fait, elle ne change pas. Il n'y a pas d'apparition ni de disparition d'eau. Donc depuis des millions et des millions d'années, il y a toujours eu la même quantité d'eau sur la planète. Seulement, on ne va pas la trouver toujours au même endroit. Et on ne va pas toujours la trouver ni en même quantité, ni dans le même état. On a de l'eau sous forme liquide, on a de l'eau sous forme de glace, et on a de l'eau sous forme de vapeur d'eau. Donc le cycle naturel de l'eau, en fait, c'est le voyage que fait, on peut imaginer une petite goutte d'eau, entre le moment où elle va tomber d'un nuage sous forme de pluie, par exemple, elle peut aussi tomber sous forme de neige ou de grêle, elle arrive au niveau de la surface de la planète, et là, il peut lui arriver plusieurs choses. Selon l'endroit où elle va tomber, selon le climat, soit elle va s'infiltrer dans le sol, et rejoindre ce qu'on appelait tout à l'heure la nappe phréatique. Et elle peut rester stockée là pendant des milliers d'années, 2500 ans, 3000 ans. Elle peut aussi ruisseler directement jusqu'à une rivière. Et là, en quelques jours, elle peut rejoindre la mer, où là aussi, elle peut rester pendant plusieurs milliers d'années. Et puis, quand elle arrive sur le sol, elle peut aussi atterrir dans des endroits gelés, très froids, où elle peut, à son tour, geler et rester en fait figée sous forme de glace pendant parfois des dizaines de milliers d'années, dans des glaciers, par exemple. Mais elle finira toujours par revenir sous forme liquide et par rejoindre un cours d'eau, puis la mer. Et une fois en mer, elle va rester là encore assez longtemps, plusieurs milliers d'années, on le disait. Et puis à la surface de la mer, l'action du soleil va faire que, à la surface de l'eau, on a toujours un phénomène d'évaporation. Donc cette petite goutte d'eau, elle va se retrouver sous forme de vapeur d'eau, elle va s'élever dans le ciel et constituer les nuages, et le cycle recommence. C'est pour ça qu'on parle le cycle de l'eau, en fait, parce que l'eau, elle voyage en permanence, ça peut durer des millions d'années, parfois elle reste figée dans un état et dans un lieu pendant assez longtemps. Mais elle continue de circuler comme ça, sur les différents états et les différents lieux de la planète.
Et au niveau du réchauffement climatique, du coup, quel est l'impact sur le cycle naturel ?
Le réchauffement climatique, ça a des effets, notamment au niveau de l'évaporation, puisqu'il va y avoir une accélération, en fait, une augmentation du phénomène d'évaporation de l'eau au niveau de la surface des océans. Alors c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir comme quelque chose d'identique sur toutes les zones de la planète, en fait. Ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est qu'il y a plus d'évaporation dans certains lieux, et du coup, il y a beaucoup plus de nuages et des pluies beaucoup plus importantes qui se produisent produisent en fait dans pas mal d'endroits de la planète. Ça donne lieu en fait à des phénomènes d'inondation ou à des tempêtes plus fréquentes aussi qui vont apporter des très très grosses quantités de pluie. Il y a des problèmes de lessivage des sols qui vont être beaucoup plus, qui vont recevoir des quantités d'eau beaucoup plus importantes. Et donc ça se conjugue à beaucoup d'autres effets qui sont en lien aussi avec les pollutions, avec un phénomène d'acidification des océans qui touche beaucoup en fait les organismes marins. Le réchauffement climatique sur le cycle de l'eau, il a des impacts assez multiples, mais c'est difficile d'en faire un tableau général, en fait, parce que c'est des choses qui vont être différentes selon les différents endroits du globe. Je crois que c'est important de préciser qu'au Petit Débrouillard, on n'est pas expert de toutes les sciences qu'on aborde, parce que justement, notre positionnement, c'est de faire de l'éducation populaire et d'aborder le plus possible de thématiques scientifiques et techniques. Alors bien sûr, on se renseigne sur ces sujets, on a des profils très très différents aussi, donc on a des gens qui sont passionnés par la géologie, puis d'autres qui sont passionnés par l'astronomie ou par la biologie marine, et puis on n'a pas tous une formation scientifique. Donc ce qui est important, c'est que tous les outils qu'on développe et les animations qu'on met en place, on s'attache vraiment beaucoup à l'exactitude scientifique, à pas dire de bêtises en fait, tout simplement. Et comme on sait qu'on n'est pas toujours des experts de ces différentes sciences, on travaille beaucoup avec d'autres associations d'éducation à l'environnement, par exemple, puisqu'on parlait de la thématique de l'eau, mais on fait aussi tout un travail de médiation scientifique. Notre métier, c'est vraiment ça, la médiation scientifique, c'est-à-dire qu'on met en relation les publics avec des gens qui sont des experts, qui peuvent être des scientifiques, qui peuvent être des associatifs, qui peuvent être des élus, des techniciens, donc des juristes. Et en fait, ça va permettre justement de répondre à des questions précises, de débattre aussi, et puis... C'est pas à sens unique, c'est-à-dire c'est pas les gens qui savent qui vont enseigner aux gens qui ne savent pas, parce que ça c'est un petit peu une vision ancienne, j'allais dire, qu'on appelait la vulgarisation. Et nous on est plus vraiment dans susciter de l'interaction. On met en relation ces différents publics, les experts, les non-experts, on les fait discuter et on veut aussi encourager le fait que le grand public puisse interpeller les scientifiques ou les pouvoirs publics sur des problématiques, sur des observations qu'ils peuvent faire au niveau de, par exemple, de l'environnement ou de l'eau, ou, je sais pas, des choix énergétiques, par exemple. Et en fait, le public participe réellement à la construction des connaissances scientifiques. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus valable, notamment avec l'essor des sciences participatives, et puis avec la facilitation du débat en fait, entre les différentes catégories d'acteurs de notre société. On encourage vraiment les gens à participer à la construction des sciences, à se poser des questions, à poser des questions aussi, et puis à contribuer en fait, à l'élaboration du savoir.
Un podcast réalisé avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour accéder à la consultation, rendez-vous sur le site www.prenons-soin-de-l'eau.fr ou adressez une consultation écrite individuelle ou collective à sdage@eau-loire-bretagne.fr.